L'écrivain Louis-Vincent Thomas affirme qu'en Afrique, le langage n'est pas seulement instrument de communication. Il est l'expression par excellence de l'être, force, déclenchement des puissances vitales et principes de cohésion. La parole constitue le courant par excellence où se réalise une harmonie plénière et agissante. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre show, votre émission L'Afrique contre-attaque. Le titre d'aujourd'hui s'intitule Mundele. Mais avant de plonger dans notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais revenir au sujet précédent, car j'ai eu quelques communications, quelques messages me demandant d'approfondir sur le thème de la fois passée concernant le pharaon Nkongo, qui a certainement fait sourire ou étonner plus d'un. Nous avons eu à recevoir des questions par rapport à la vocalisation de la première syllabe, c'est-à-dire « né », car nous avons dit que ça reportait aux langues africaines quand on parle par exemple de Ndinga. Le fil nous renvoie à un N. On a trouvé ça un peu léger, mais on va approfondir le sujet en disant que la première graphie du nom du pharaon Nkongo, que l'on retrouve dans la Bible, hein, dans le livre des rois, si vous pouvez vérifier, il est dans la Bible. Le pharaon Nkongo, vous le trouverez sous le terme du pharaon Nkongo dans le livre des rois. Sur Google, vous pouvez retrouver ça facilement. Mais pour ceux qui veulent la référence directe, c'est dans Deux Rois, chapitre 23 et de 29 à 30. C'est là où vous voyez le pharaon dit Nkongo, mais il ne s'appelle pas Nkongo, il s'appelle Nkongo. Alors nous disons que le premier né, car dans les langues africaines, dans le Kikongo par exemple, lorsque l'on dit né, c'est une préposition. Vous pouvez vérifier, le filet d'eau est une préposition, donc a, de, pour. Donc quand on dit Nkongo, ça, c'est une préposition qui marque l'appartenance. Le filet d'eau, qui représente la lettre N ou le son N, d'après les égyptologues, est en fait né. Et c'est reconnu que c'est une préposition qui marque l'appartenance, comme à, de, pour. Donc, né Congo, c'est de Congo, à Congo. Ça marque l'appartenance à la communauté Congo, donc à une agglomération unie, lorsque l'on comprend la symbolique de la ou dans les langues africaines, qui est la même que celle qui est en Égypte, car c'est le symbole qui marque le territoire, c'est le symbole qui marque l'amour, c'est le symbole qui marque la appartenance. Vous savez aussi qu'en Kikongo, on a Nsengo pour dire la ou, et on a Esengo en Lingala pour dire la joie. Donc vous voyez que ce soit en Lingala, en Kikongo, et en remontant même jusqu'au niveau de l'ancienne Égypte, on a cette unité culturelle de l'Afrique. Et nous reprenons aussi que le mot Nkongo n'est pas simplement trouvé au Bas-Congo. On le retrouve beaucoup plus même en Namibie. En RDC, dans la province du Bas-Congo, Congo central, et on retrouve aussi ce nom au Cameroun. Et chose particulière, ces trois pays ont des côtes. Ce sont des pays qui ont des mers. Nous avons parlé de l'autre fois qu'Nkongo II avait envoyé des expéditions maritimes pour faire le tour de l'Afrique, ou une expédition du moins maritime pour faire le tour de l'Afrique. Cette expédition est revenue. Donc, il connaissait les côtes africaines, il faisait des tours. Et quand, lorsqu'on fait une telle expédition, il y a des escales. Et on se rend compte qu'en Namibie, il y a le nom Nkongo. En RDC, à l'extrême ouest, il y a le nom Nkongo, ou la communauté Nkongo. Et au niveau du Cameroun, on a aussi le nom Nkongo. Donc c'est un nom qui est propagé, c'est un nom qui n'est pas simplement situé à un seul endroit, mais il se retrouve partout en Afrique. Et comme il y a unité culturelle de l'Afrique, c'est tout à fait normal que l'on puisse le retrouver ailleurs. Et dans l'émission précédente, j'ai donné encore d'autres arguments par rapport à cette présence culturelle égyptienne, cette unité culturelle, aussi bien chez les Bantous qu'au niveau du Nord. Car ces populations, en fait, étaient Bantous. Mais nous approfondirons ça dans d'autres émissions, car le sujet est extrêmement vaste pour montrer au fait que le nom Bantou ou Remetou, par exemple, la manière dont les anciens égyptiens s'appelaient, Remetou n'est qu'une une vocalisation différente de Bantou. Et on aura à y revenir, car le sujet est extrêmement vaste et nous avons toutes les données en notre possession. Mais nous allons injecter cela petit à petit. Nous ne voulons pas non plus créer une sorte d'indigestion. Nous allons libérer ces informations petit à petit. Nous sommes passés d'un format de 1 heure à un format de plus ou moins 30 minutes. Et nous allons livrer les grands formats, les dossiers spéciaux à 1 heure, peut-être 2, mais je ne pense pas. 1 heure suffira peut-être pour les grands dossiers, lorsqu'il faut là, on se concentrera sur la biographie d'un personnage ou d'une personnalité historique. Nous prendrons 1 heure pour un grand format, mais les formats habituels prendront surtout 30 minutes. Revenons maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui intitulé Mundele. Alors, qu'est-ce que Mundele? Mundele est le nom que les peuples de la RDC, la République démocratique du Congo, et le C'est le terme qu'ils utilisent pour désigner les Européens, les Occidentaux ou les Blancs en général. Alors, d'où vient ce nom? Ce nom, dans la culture populaire, nous pensions que le mot venait de modèle, car on disait lorsque les exportateurs sont venus, ils ont été comme des modèles parce qu'ils étaient soi-disant plus avancés que les populations qu'ils ont trouvées et on les prenait pour des modèles. Voilà pourquoi d'où on a tiré le mot Mondel avec O et puis qui a donné avec le temps Mundele. Et lorsque nous allons sur Wikipédia, je vais sur Wikipédia, pourquoi? Parce que Wikipédia, il faut se dire que ce n'est pas c'est un point d'entrée, ce n'est pas une source académique fiable. Et ici, nous voulons être restés dans le scientifique. Mais nous allons sur Wikipédia aujourd'hui pour voir, au fait, la pensée populaire. Parce qu'il y a ce qu'il y a sur Wikipédia. Nous ne disons pas qu'il y a sur Wikipédia, il n'y a pas de vérité. Il y en a, car certaines informations sont sourcées. Et encore, ces sources, il faut aussi les vérifier, car tout le monde sur le net peut balancer n'importe quoi. Donc, on ne peut pas utiliser comme argument scientifique, disons, on est allé sur Wikipédia pour démontrer telle ou telle chose. Ce n'est pas très très professionnel. Mais nous allons sur Wikipédia pour en fait montrer quelle est la pensée populaire, car c'est là où la majorité des gens vont comme premier point d'accès pour se ressourcer. Et justement, nous aujourd'hui, nous voulons montrer une certaine vérité et nous voulons voir comment est-ce que la pensée populaire est faussée en montrant ce qui est divulgué au plus grand nombre, à la population. Voilà pourquoi nous allons sur Wikipédia pour voir cette information qui est donnée au plus grand nombre et qui ne corrobore pas la réalité ou la vérité. Lorsque nous allons sur Wikipédia, lorsqu'on voit le mot Mondel, donc M-O-N-D-E-L-E, ou Mondele, comme on le prononcerait chez nous au Congo, nous allons sur l'article est en anglais, mais quand on traduit, on dirait qu'en fonction de ce que le Lingala dit, on dirait que le mot Mondel, donc on dit it seems that the origin of the word comes from the Bobengi language and that the radical Ndele, donc on dirait que le mot vient du langage des Bobengi, donc il devrait être une tribu là-bas, et qu'on se rend compte que le radical Ndele nous laisse croire que les Africains pensaient ou percevaient les Européens comme insincères, donc le mot, et ils prennent le mot insincère comme Ndelengene. Donc c'était un mot qui était donné plus par rapport parce qu'il les croyait insincères et non pas plutôt que par la couleur. Donc Ndelengene serait le mot qui aurait influencé le mot Mundele parce que les gens les percevaient comme insincères. Ou alors il y a aussi une autre version qui dit dans la pensée populaire que c'est parce qu'on les croyait, on les pensait pour modèle et modèle a été africanisé en Mundele et voilà pourquoi on les appelle ainsi. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque nous consultons les travaux du professeur Bilolo, grand historien congolais, ou encore les travaux du professeur de Monsieur Dibombari Mbok, grand chercheur sur l'histoire de l'Afrique, nous nous rendons compte que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Nous allons nous référer au livre Congo de Dibombari Mbok à la page 155 et nous irons avec ceci. Je quote, dans la langue Mangbetu, au Congo, et les Mambetu, c'est une population que l'on retrouve en RDC, aussi bien au Congo donc qu'en Ouganda. Et nous rappelons que les Mambetu sont liés aussi à l'Égypte ancienne. Pourquoi? Parce que les Mambetu, c'est eux qui allongent les crânes de leurs enfants. Nous ne savons pas si la pratique existe toujours jusqu'à ce jour, mais dans les villages, en tout cas dans les images que l'on peut voir de l'époque coloniale, on peut voir des femmes qui ont des crânes allongés et leurs enfants aussi ont des crânes allongés. C'est une pratique que l'on retrouve dans la 18e dynastie sous le pharaon Akhenaton. Lui, sa femme et leurs enfants avaient des crânes allongés. Culture que l'on ne retrouve évidemment spécifiquement qu'en RDC à ce niveau-là et aussi au niveau aussi de l'Amérique centrale. Et nous avons le lien aussi avec le livre « They Came Before Columbus » de Ivan Van Sertima. Le titre donc c'est en français « Ils y étaient avant Colomb » qui montre qu'il y avait des émigrations aussi d'Égyptiens en Amérique. Bien que le sujet est souvent tabou, mais on sait qu'il y a des éléments assez costauds là-dessus. Mais c'est une parenthèse. Donc je voulais montrer que les Mambetu dont nous parlons ici ont un lien avec l'Égypte ancienne par rapport à la culture d'allonger les crânes. Et il y a aussi des études d'ADN qui ont été faites sur la 18e dynastie qui montrent que les origines sont évidemment de l'Afrique centrale, de cette région-là de l'Est du Congo. Donc là où les Mambetu sont trouvés. Donc la génétique et la culture montrent qu'il y a un lien direct entre les populations du Congo et l'Égypte ancienne. Alors nous passons maintenant au langage car le titre c'est Mundele, n'est-ce pas? Alors, nous disions que le livre à la page 155 de Dibombari Mbok dit ceci. Dans la langue Mangbetu, donc entre parenthèses Congo ou Ouganda, Ndelu, N-D-E-L-U, devient Angeli et désigne autant les ancêtres, les divinités secondaires que le dieu créateur, la racine Anga, donc Ankh, la croix Ankh que vous connaissez, la croix Ankh c'est la croix égyptienne qui a une espèce de anse avec une espèce de plus dans, vers le bas, la croix Ankh, la croix égyptienne que vous connaissez certainement. On l'appelle en réalité en fait Anga. Ankh c'est la manière latinisée ou je ne sais européanisée, mais en réalité ça s'appelle Anga. Donc nous disions, nous répétons que le mot Angeli désigne autant les ancêtres, les divinités secondaires que le dieu créateur. La racine Anga, entre parenthèses Ankh, déclinée plus haut avec le Lingala, reparaît dans cette vocalisation. D'où l'association continuelle des Ebandeli avec la croix Anga, trilitaire signifiant vie, car la croix Ankh signifie vie. Ce nom Angeli est aussi celui d'un oiseau dans la langue et la cosmogonie Mangbetu, le peuple dont nous avons parlé, qui est en RDC et qui a les crânes allongés, que l'on retrouve aussi dans la culture, se retrouve en Égypte. Ce qui n'est pas sans rappeler les ailes de l'iconographie commune accordée aux anges et autres personnages célestes. Ailes que portent certaines divinités de la tradition nilotique, dont Maat. Maat qui est une divinité égyptienne avec des ailes. Donc le personnage, la première fois que l'on voit des personnages avec des ailes, d'êtres humains avec des ailes, c'est en Égypte ancienne et aussi en Mésopotamie avec les Enki et tout ça. Mais c'est surtout en Égypte avec Maat, les ailes, c'est là où l'on retrouve ça. Et aussi Horus aussi qui a des ailes, un être humain avec des ailes aussi, une tête d'aigle. Alors nous continuons avec le texte. Aujourd'hui, affirment les dictionnaires étymologiques, le terme ange du latin angelus reste d'une origine incertaine. Or, il paraît évident maintenant qu'il tient son origine du Chiluba Ndelu, du Mangbetu Angeli ou Angeli, qui peut s'écrire avec un U ou un A suffixal, comme c'est souvent le cas avec les langues bantoues. Angeli égale NTR. Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu, je répète, aujourd'hui, affirme les dictionnaires étymologiques, le terme ange du latin angelus reste d'une origine incertaine. C'est ce que les dictionnaires disent. Quand on veut voir le mot angelus, l'ange en latin, quand on veut voir l'origine, les dictionnaires latins européens ne connaissent pas l'étymologie de ce mot. C'est incertain. Mais nous savons, nous, quand on nous dit incertain, on sait que c'est un Afrique qu'il faut chercher, comme le dit le professeur Théophile Obenga. Je reprends. Or, il paraît évident maintenant qu'il tient son origine du Chiluba Ndelu. Et nous savons qu'ici, nous aurons des éclats de rire de beaucoup d'auditeurs. Mais nous continuons car les faits sont têtus et nous comprendrons pourquoi. Du Mangbetu Angeli, qui veut dire avec un U ou un A suffixal, comme qui peut s'écrire avec un U ou un A suffixal, comme c'est souvent le cas avec les langues bantoues. Angeli égale NTR, c'est-à-dire Neter ou Neteru. On obtiendra Angelu ou Angelu, Angela ou Angela, et Angelus, etc. en latin. Le S décrivant un suffixe propre au latin et au grec. Le mot grec pour Angelus est Angelos ou Agelos, signifiant messager. Et ensuite, on nous montre trois drapeaux dans le livre. Trois drapeaux qui sont des petits drapeaux, en fait, qui sont des hiéroglyphes. On nous montre trois drapeaux qu'on appelle Neteru en anglais, mais qui, en ancien égyptien, et qui veut dire Ebandeli. Donc, un seul drapeau veut dire Neter, mais trois drapeaux, donc c'est le pluriel, c'est Neteru. Et cela signifie, en langue africaine, lorsqu'on translittère le mot Neteru, c'est Ebandeli. Le mot évangile dérive du même radical et traduit la bonne nouvelle, le V étant une altération du H comme le bantou ou du B, comme le bantou l'atteste. Le mot authentique est bien Ebandeli, Ebangeli. La forme anglaise est angel ou angel, angel. En Chiluba, nous avons le mot Mwanjelu ou Mwanjelo, signifiant ange. L'évangile se dit Evangelio, que l'on croit bien sûr emprunté au latin à cause de la trop évidente ressemblance entre les deux termes. Il n'en est rien cependant, car les radicaux que nous citons plus haut sont d'authentiques radicaux bantous. C'est donc le latin qui aura emprunté au bantou et non l'inverse. Le même phénomène apparaît avec le mot king de Sawa, des Sawa que l'on croit emprunté à l'anglais king, ou encore le mot sukulu, école, des Beti que l'on croit emprunté à l'anglais school. Nous pensons qu'il s'agit là d'une inversion d'origine, car Nkulu désigne la sagesse, Nkulu, c'est-à-dire l'objet de l'école dans les langues bantoues. Donc, pour résumer ici, de quoi parlons-nous ou à quoi avons-nous affaire? Nous avons affaire tout simplement au fait que lorsque les explorateurs sont arrivés en Afrique, venant de l'Ouest, et que le mouvement de, entre guillemets, christianisation a commencé dans ces populations-là, il a eu un travail de changement de mentalité dans le mauvais sens et de d'évangélisation, entre guillemets, et nous allons faire un jeu de mots avec ce que nous venons de découvrir. C'est-à-dire que lorsque les peuples ont commencé à recevoir les enseignements des prêtres et des colons, une mythologie a été créée sur l'origine des Européens. C'est-à-dire que, en enquêtant sur les croyances des peuples qui étaient sur place, ils ont découvert que pour eux, leurs ancêtres, il y avait des grands ancêtres qu'on appelait des Ebandeli, ou encore des Bendele, ou des Ndele. Car le mot Ndele vient de Bendele. Et, comme nous l'avons dit, il y a l'unité de langage ou de la culture entre Égypte et Afrique centrale. Quand nous parlons du mot Nekongo qui se retrouve en Égypte et qui se retrouve aussi au Congo, cela fait étonne beaucoup de personnes. Mais comment expliquons-nous que le fait que le mot pour désigner le drapeau qui est Neter et le mot qui se translittère par les anciens Égyptiens vont transcrire le mot Neteru, c'est-à-dire les anciens, les grands ancêtres par le signe du drapeau. Les Bantous de l'Afrique centrale vont aussi désigner les grands ancêtres par le mot, par le signe du drapeau. Parce que lorsqu'on a le drapeau qui est Neter au singulier et Neteru au pluriel, qui est désigné par soit un drapeau, soit trois drapeaux pour marquer le pluriel ou la pluralité des dieux, on a la même pensée en Afrique centrale chez les Bantous où on a le mot Bendele, c'est le drapeau. Et Ndele, ça renvoie aux grands ancêtres, parce que Ndele, c'est le diminutif de Bendele. Et comme dit Bombarimbok l'a montré, le mot Ndele, Ndeli, Ndela, est le même mot qui nous renvoie à Ebandeli. Ebandeli et Bendele sont des mots qui sont liés, et c'est par ce mot Ebandeli qu'on a le concept d'ange, comme on a montré avec Dibombari Mbok. Donc, ce concept de Bendele, de Ndele, renvoie aux grands ancêtres qui ont vécu et qui ont donné, au fait, naissance à la civilisation. Lorsque les explorateurs sont arrivés, soi-disant explorateurs, ils ont interrogé les peuples sur leurs croyances anciennes et ont fait croire à ces gens que eux étaient ces ancêtres-là, étaient ces Ndele. Et voilà pourquoi, au fil du temps, on a commencé à appeler les Européens Mundele, parce qu'on les a associés où eux ont fait croire aux populations en place qu'ils étaient ceux-là qui étaient leurs ancêtres parce que eux apportaient la parole de Dieu, eux avaient une certaine supériorité militaire, car les populations qui étaient en place étaient extrêmement civilisées, extrêmement développées. La différence était simplement qu'on avait affaire à une culture martiale venant de l'Occident et à une culture plutôt pacifique étant en Afrique centrale. C'est tout simplement cela. Il n'y avait pas une qui était supérieure à l'autre, c'était deux philosophies différentes. Et comme nous avions réussi à établir la paix entre les différentes civilisations, nous ne disons pas que c'était des civilisations parfaites, qu'il n'y avait pas de guerre, mais le fait de voir que les armes de guerre n'étaient pas développées à l'extrême montrait aussi que les conflits n'étaient pas si importants que ça, ou du moins qu'il n'y avait pas sujet à s'armer ou à s'enfermer dans des forteresses à cause de la guerre. Mais la philosophie de paix qu'il y avait là-bas montrait qu'il n'y avait pas lieu de développer des armes de guerre, mais qu'il fallait au plutôt privilégier la paix et le dialogue. Voilà pourquoi ces civilisations sont allées vers ce sens-là, et que plutôt les Européens sont plutôt allés vers une situation beaucoup plus martiale, car à cause de la précarité des ressources, donc il faut aller dans des raids, il faut aller conquérir les autres pour avoir des ressources que l'on n'en a pas. Mais en Afrique, en les ayant, ça montre qu'il n'y a pas le même rapport, hein. Quand on regarde l'histoire africaine, ce n'est pas, par exemple, comme l'Asie ou l'Occident où il y a des guerres de 100 ans. Il y a des guerres en Afrique, oui, nous en avons déjà parlé, mais ce n'est pas comparable par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. À cause, justement, de l'abondance de ressources en Afrique, chacun a ce qu'il doit avoir, aller conquérir l'autre voisin, on n'en voit pas trop l'utilité. Ça s'est passé, oui, il y a eu des conflits entre le nord et le sud de l'Égypte, pour des ressources aussi, cela existe, mais ce n'est pas comparable par rapport à d'autres civilisation. Nous disons donc que le mot Niger ou Néter ou Netcherou est le terme qui était employé en Égypte ancienne pour parler de ces grands ancêtres-là qui étaient venus apporter la civilisation. Et ces grands ancêtres-là étaient au fait des Noirs qui venaient de l'Afrique centrale. Ce sont ces personnes-là, ces conquérants lorsqu'ils sont montés en Égypte, c'est eux-là qu'on a identifiés à des Netcherou, à des fils de Dieu ou encore à des Shemsu-Or, c'est-à-dire à des suivants d'Horus, parce que Horus était la divinité qui était le premier pharaon, et ceux qui ont suivi étaient ces populations-là qui avaient, qui venaient au fait de l'Afrique centrale et qui sont arrivés vers les territoires de la vallée du Nil. Alors, ces personnes-là, comme nous le disons, nous disons que ces personnes-là sont ceux qui ont été identifiés au fait à des anges. Car comme vous le savez, quand dans la Bible, par exemple, on dit que voilà, il y a eu des fils des hommes, virent que les filles des hommes étaient belles, les fils des dieux plutôt, virent que les filles des hommes étaient belles et ils eurent des enfants, et ce sont ces héros qui furent connus, famés de l'Antiquité. Ces fameux héros-là, ce sont des Shemsu-Or, c'est-à-dire des suivants d'Horus, c'est-à-dire ces personnes-là qui avaient des capacités hors du commun. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des rites initiatiques, un peu comme ceux que l'on connaît à l'est du Congo. Vous connaissez ces histoires qui parlent, par exemple, des tribus Maïmaï. Ça, on en parlera beaucoup plus tard, parce que sinon, ça va nous prendre trop de temps. Nous voulons résumer en peut-être une trentaine de minutes. Ça nous prendra trop de temps, mais on y reviendra en long et en large. On sait ce qui se passe dans l'est du Congo avec des, par exemple, le mouvement Maïmaï. Maï qui signifie tout simplement lion en ancien égyptien, qui signifie aussi eau. L'eau se dit Maï, le lion se dit aussi Maï en ancien égyptien. Donc lorsqu'il dit Maïmaï, c'est un mouvement qui est directement lié au lion, à l'eau. Alors quel est le rapport qui est entre l'eau et le lion? C'est tout simplement le poisson-chat, le silure. Et le poisson-chat, c'est quoi? C'est le nom de Narmer. Narmer s'appelle le poisson-chat, le poisson électrique. Et ce nom de poisson-chat, et on sait que par exemple au Bas-Congo, dans le livre sur un livre qui a été paru, qui parle du massif de l'Ovo par exemple, on décrit par exemple un rite initiatique où quelqu'un, on lui met un silure, un poisson-chat dans la bouche afin qu'il puisse passer l'initiation. Donc on voit très bien que tout cela nous ramène à Narmer, tout cela nous rappelle à l'homme léopard, tout cela nous ramène au fait à la royauté, car le pays se dit Mboka, par exemple au Congo, et Mpoka, c'est le nom du poisson-chat. Donc quand on veut établir la royauté, quand on parle du lion, quand on parle du roi, quand on parle du territoire, on revoit toujours au lion des eaux, à cette initiation-là qui se fait. C'est extrêmement long, je préfère m'arrêter ici, on ne va pas aller beaucoup plus loin, c'est extrêmement, extrêmement long. Donc je préfère m'arrêter à ce niveau. Mais nous allons continuer avec le mot Bendele. On disait donc que du moins ces anges dont nous avons parlé tout à l'heure étaient les humains noirs divinisés, les Netcherou, Bendele, Lendele. De plus, le sud était considéré comme le ciel pour l'ancien Égyptien, le royaume de Dieu. Ils furent divinisés et devinrent des Ndele. Les anges par après, comme nous l'avons vu avec Dibombarimbok, le mot Ndele, c'est ça qui va donner le mot ange. Donc Ndele et Bandeli. Bendele, c'est la même chose, parce que le signe du drapeau veut dire Neter, Netcherou. C'est aussi le même signe, Bendele, Ndele, qui donne aussi le nom des dieux ou des grandes divinités chez nous, des grands ancêtres. Et nous allons chuter bientôt avec ce que nous voulons conclure. Alors, Osiris et Isis portent des ailes dans les fresques, par exemple. Et nous disons que nous découvrons donc aussi que le mot Mundele signifie les dieux ou les grands ancêtres. La racine d'elle se rapporte à Bendele, comme on l'a dit, drapeau en lingala, car le signe du drapeau égyptien identifie les humains du commencement, les Neterou, les fils et les filles de Dieu de la Tanéger ou Tanéter. Neter devient donc Ndele, car le L devient R chez les Hutus et les Tutsis. Le son T devient D, parfois dans le langage. Il permet de faire une liaison lors de la rencontre de deux mots ou tout simplement parce qu'ils ont presque la même prononciation. Néter se translittère ainsi. Ndele. Je reprends. Nous avons le mot néter, n'est-ce pas? Dans ce mot néter, le T peut devenir D. Le R peut devenir L. Car vous savez, comme à l'est du Congo, il y en a qui disent, au lieu de dire L, ils disent R. Vous savez ça. Et T, on sait que dans le langage, le T peut devenir aussi D. Vous savez, par exemple, les verbes en RE, par exemple, apprend-on, comment apprend-on? Vous savez, apprend, finit avec D, mais pour faire la liaison, on va dire ton, on va dire t, apprend-on, mais pourtant c'est un D, on devrait dire apprend-on, mais apprend-on, Vous savez, donc dans le langage, le T se présente, c'est comme D, se prononce comme T. Donc T et D peuvent changer, c'est interchangeable. Donc vous avez, je reprends, que Néter, N-E-T-E-R, se translittère ainsi. Nélé. Néter, en fait, c'est Nétéré. Nétéré. Ça devient Nélé. Parce que le T peut devenir D et le R peut devenir L. Et vous savez que, comme on avait dit, en Égypte, il y avait beaucoup de tribus. Toutes les tribus n'ont pas le même accent. Vous prenez par exemple l'exemple du Congo, que je connais bien. Tout le monde n'a pas le même accent. Ceux qui sont Baluba, ceux qui sont Bakongo, ceux qui sont Baswahili, ils n'ont pas le même accent quand ils parlent Lingala ou quand ils parlent français. Ils n'ont pas le même accent. Donc, c'était la même chose avec l'Égypte. C'est 42 noms, c'est 42 provinces. Tout le monde n'avait pas forcément le même accent parce que c'est une agglomération, un conglomérat de plusieurs tribus qui se sont mis ensemble lorsque la cérémonie qu'on appelle Sematawi a été mise en place, lorsque l'Égypte a été fondée. Voilà pourquoi on appelle ça la Tamérie, la terre du rassemblement, qui est liée à Congo, comme on a dit, parce que Méri, ça signifie la ou, c'est le rassemblement, c'est la même signification en Égypte, hein, en hiéroglyphe, ou ce que ce soit dans les langues bantoues africaines, comme le Kikongo ou le Lingala. Donc, c'est le même univers. Donc, je reprends, Nétéré, donc N-E-T-E-R-E, se translittère ainsi, Ndele, N-D-E-L-E. Donc, Nétéré, c'est Ndele, c'est la même chose. Nétéré, ça s'écrit avec un drapeau. Ndele ou Bandele, Bendele, ça s'écrit avec un drapeau, c'est juste un diminutif. Donc, Bamindele signifie donc les dieux, les ancêtres primordiaux, les bienfaiteurs. Les Mwanjelu qui donnera les anges pour, se référer à Dibombaribo. Mwanjelu qui donnera les anges, Bendele égal drapeau, hiéroglyphe, Neteru, les dieux, Mundele. Ainsi, nous pouvons donc voir que le mental, par exemple, des peuples congolais à la connexion a été au fait formaté pour faire croire au fait que justement les colonisateurs étaient des Mundele, parce que le Mundele, si vous avez bien suivi la démonstration, Mundele signifie les grands ancêtres. Or le mot, justement, notre propos aujourd'hui est de dire que le mot n'est pas approprié, parce que les grands ancêtres, les Mundele, le Mundele, ce n'est pas un Européen, puisque le grand ancêtre, ces ancêtres bantous qui venaient de la vallée du Nil et qui venaient de la région des Grands Lacs et qui sont montés pour aller créer la civilisation égyptienne, ou du moins apporter une nouvelle vague là-bas, car avant que les Nétères arrivent, hein, qui étaient des populations de l'Afrique centrale, toute un tas de populations qui venaient aussi bien du Congo que peut-être vers la région de l'est du Congo, hein, que ce soit vers le Katanga, que ce soit vers le Kivu, et même peut-être même vers la Tanzanie. Katanga, Tanzanie, vous savez, c'est la même zone. Sans ces populations, avant que eux viennent, il y avait d'autres Bantous qui étaient déjà arrivés là-bas, qu'on appelle les Anous. Les Anous avaient déjà mis en place beaucoup d'aspects de la civilisation égyptienne. Des Anous qui sont noirs, d'après les fouilles archéologiques, on a démontré que les Anous étaient effectivement des populations noires. Émile Amelino l'a dit, Flinders Petrie l'a dit, des grands égyptologues. Mais là où il se trompe, surtout Flinders Petrie, il dit que ceux qui sont venus après les Anous, ce qu'on appelle les Mesniti, eux étaient une population peut-être asiatique, ce qui est faux. Ce sont aussi des peuples bantous. Par exemple, il y a un auteur qui s'appelle Albert Churchward, qui dit au fait que dans un de ses bouquins que ces populations-là étaient plutôt des populations plutôt africaines aussi. C'est-à-dire la deuxième vague d'invasion qui est arrivée là, qui avait causé cette guerre-là. Et il l'attribuait plutôt au groupe Maasai. Donc, et les Maasai, on le retrouve plus où, au Kenya et au niveau de la Tanzanie. Donc, on voit très bien que ces populations qui sont africaines, et Narmer, on sait voir, il y a son visage qui est au British Museum. On sait bien voir le visage négroïde avec le nez, les lèvres, tout ça. Donc, il y a le visage qu'on voit. Donc, c'est une population typiquement africaine. Et surtout, nous savons, ce qui nous intéresse, c'est la culture qu'ils avaient. Quand on voit la culture, quand on voit ce qu'il apporte au niveau de la vallée du Nil, on a bien dit que par exemple le mouvement Mai Mai, par exemple, c'est un mouvement que l'on retrouve aussi bien en Tanzanie où on a ces Maasai, et que l'on retrouve aussi à l'est du Congo. Et Mai Mai, c'est aussi bien le lion que l'eau. Et donc ça nous renvoie donc au félin des eaux, c'est-à-dire aux silures dont on a retrouvé les symboles initiatiques. Et c'est avec ça que Narmer justement arrive en Égypte. Donc par la culture, on peut même voir que cette deuxième vague-là est très africaine. Et on voit qu'on est dans cette pensée des Maïmaï qui, selon la pensée populaire, ils auraient certains fétiches qui feraient que lorsqu'on tire dessus, on tire sur eux, les balles rebondissent, n'ont aucun effet sur eux. info intox. Moi, je n'ai rien vu, donc on essaie en fait d'être dans les scientifiques. C'est ce qui se dit, mais on peut bien voir que cette vague de population qui sont arrivées là-bas était dans le même esprit, dans des espèces de fétiches, je ne sais pas moi quoi. Bien que ce mot-là, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il a une connotation coloniale et on ne dit pas vraiment les choses telles qu'elles sont. Eh bien, était dans cet état d'esprit-là en allant à la guerre où on peut s'imaginer que lorsqu'on leur balançait des flèches, eh bien, ça n'avait aucun effet. Du moins, ils croyaient en ces choses-là. Et ces peuples-là, curieusement, sur la palette de Narmer, c'est-à-dire l'espèce de pierre dans laquelle on retrace les faits historiques de cette conquête-là de la région des Grands Lacs au niveau du partant de la région des Grands Lacs allant vers le nord, on voit que les personnes ont des étendards, des drapeaux, des bendélés, vous voyez. Et on sait que quand on veut montrer la présence du divin et qu'on ne peut pas le voir, on utilise souvent la métaphore du vent. Et le vent fait bouger le drapeau. On ne voit pas le vent, mais on voit sa force. Donc l'étendard, le drapeau qui bouge, montre la force du vent, montre la force, la présence de l'esprit. Parce que l'esprit se manifeste par le vent. Et on sait qu'on parle, par exemple, quand on dit, voilà, l'esprit est venu des quatre vents. Vous voyez? L'esprit est venu des quatre vents. Par exemple, vous avez sur Ézéchiel 37:9, on dit « Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'éternel esprit, vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. » Et vous avez d'autres exemples, par exemple, dans Jérémie 49:36, Daniel 7:2, et j'en passe et des meilleurs, où on parle des quatre vents. Donc l'esprit se manifeste par le vent. Et les Ébandélis, ces gens justement, plutôt les anciens Égyptiens, sous Narmer, lorsqu'ils arrivent avec ces bannières-là, c'est pour montrer la présence du vent, de l'esprit, donc des ébandélis, des ndélés. Et voilà pourquoi ils ont cela. Et, chose intéressante, avec quoi étaient faits ces drapeaux? Ils étaient faits avec des raffias, des palmiers. Et comment on dit raffia ou le palmier, en tout cas le raffia en lingala, l'un des noms, c'est ndélé. Ndélé signifie aussi le raffia. On dit par exemple ndakoyandele. Il y a des maisons qu'on fait en raffia. On dit ndakoyandele. Donc le ndele là, c'est avec ça qu'on fait des maisons, qu'on tisse des nattes, qu'on tisse des drapeaux, qu'on tisse des étendards, des drapeaux. Donc ils le faisaient avec le raffia. Et on appelle ça aussi ndele. Donc fondamentalement parlant, le ndele est renvoyé à tout ce qui est drapeau, à tout ce qui est esprit, à tout ce qui est vent. Parce que quand on fait le ndele, il y a le principe d'homonymie. On va utiliser le ndele pour faire le drapeau. Et ce drapeau va être bougé par le vent. Donc on va donner le même nom à la plante, au drapeau et à l'esprit, parce que tous les trois sont liés. Voilà pourquoi on va appeler ça ndélé, on va appeler ça bendélé, et on va dire aussi en lingala, par exemple atandélé. Donc même plus tard dans le temps. Donc le ndélé renvoie au temps, à l'éternité, à ce qui est éternel, et les esprits justement sont éternels. Donc tous ces concepts là marquent justement cette idée d'esprit de temps. Et lorsque les Occidentaux ont appris ça en revenant, en étudiant la pensée africaine, en interrogeant les Africains sur place sur leurs croyances, ils se sont attribués ces choses. Et voilà pourquoi ils ont fait croire aux gens qui étaient sur place qu'ils étaient des Mundélé. Et cela traduit justement cette pensée que nous avons aujourd'hui de penser que l'Occidental est un dieu, que l'Occidental connaît tout, que l'Occidental sait tout. Voilà pourquoi nous avons commencé au début en disant « L'écrivain Louis-Vincent Thomas affirme qu'en Afrique, le langage n'est pas simplement instrument de communication. Il est l'expression par excellence de l'être-force, déclenchement des puissances vitales et principes de cohésion. La parole constitue le courant par excellence où se réalise une harmonie plénière et agissante. » Nous voulons tout simplement dire par là qu'il faut changer la manière dont nous parlons. Nous devons changer la manière dont nous pensons. Nous ne devons pas appeler les Occidentaux Mundélé, parce que ce n'est pas une réalité sociologique qui leur est attribuée. C'est une réalité sociologique qui est liée, au contraire, à nos ancêtres, à notre histoire. Et on ne peut pas appeler un Occidental ou un Européen Mundélé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Philosophiquement, historiquement, sociologiquement, ça n'a pas de sens d'appeler un Occidental Mundélé. Ça n'a pas de sens. Parce que les ancêtres des Africains sont noirs. L'homme est né en Afrique, dans la vallée Homo 1, ou dans la vallée de la région des Grands Lacs, de la région du Rift. Donc ça n'a pas de sens. Donc c'est être, donc le prononcer ce mot, c'est toujours être dans une situation attentiste où on attend que l'autre puisse donner, en disant que voilà, les Occidentaux doivent nous envoyer l'aide alimentaire, ils doivent nous aider parce que c'est eux les ancêtres. Non, biologiquement parlant, c'est une erreur. Biologiquement parlant, ça n'a pas de sens. Donc il faut changer, il faut les appeler par leur nom. Ce sont des Européens, ou ce sont des, je sais pas moi, des Caucasiens, encore que Même, sont-ils vraiment originaires du Caucase? Il y a cette ironie-là, en fait, dans l'histoire de l'humanité qui fait que on appelle les Européens Européens. Un nom étrange, pourquoi? Parce que l'Europe, c'est la sœur de Agénor qui est un Cananéen noir, qui sont issus des fils de Cam, hein, de Cham, d'après les récits bibliques. Mais nous savons que c'est plus profond que ça, parce que l'homme est né en Afrique. Donc, l'être humain, et c'est après que les autres mots que je n'aime pas, races, apparaissent. Nous sommes tous, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et nous devons comprendre que, justement, Europe est le nom d'une femme noire, cananéenne. Et c'est le nom que les Européens ont adopté. Ils ne savent, beaucoup ne savent pas qu'ils portent le nom d'une femme africaine. Hein, en tout cas, d'ascendance africaine liée à l'Afrique. Les Africains sont fiers de dire, oh, nous sommes africains, fiers d'être africains. Afrique, affaire, était le nom, soi-disant, d'une population qu'on disait blanche, du moins métissée, qui était au niveau du nord, que les Romains ont vu. Ce n'était pas forcément la réalité de toute l'Afrique. Donc voilà pourquoi le mot est obscur, mais c'est une des théories. C'est une des théories. Mais en tout cas, à l'époque, on ne s'appelait pas africain. On s'appelait Remetou, on s'appelait Kemit, ou on s'appelait Bantou, ou et encore même Éthiope, c'est le nom que les Grecs ont donné, qui veut dire figure brûlée. Donc voilà, donc les peuples s'attribuent des noms qui ne sont pas les leurs. Américo vient de Américo Vespucci, qui est un Portugais, mais pourtant, est-ce que c'est la réalité vraiment anglo-saxonne qui est dans les lieux? Et encore Américo, comme on a dit, il y a les vrais natifs sont les tribus natives là, natives américaines, qu'on dit indiennes, mais ce sont pas des indiens. Les mots indiens qu'on donne aux autochtones là, c'est le nom que Christophe Colomb a donné à ces populations parce qu'il pensait qu'il arrivait en Inde. On les appelle pas indiens, et même les autochtones ont horreur qu'on les appelle indiens. Ils s'appellent, ce sont pas des indiens. Les indiens, ce sont ceux de la vallée de l'Indus. Et quand on va en Inde là-bas, quand on interroge le mot Indus, on voit que cela nous ramène aux Dravidiens, qui est une population noire à l'origine. Donc c'est ça, en fait, l'histoire de l'humanité in fine, où on se rend compte que nous avons cette notion d'identité, mais savons-nous réellement qui nous sommes? Et on pense être blanc, on pense être noir, on pense être ceci, cela, mais quand on regarde les racines, on se voit que c'est beaucoup plus compliqué, complexe que cela. Donc, pour finir, Mundele n'est pas le nom que l'on devrait donner aux Occidentaux, parce que c'est au contraire, Mundele veut dire l'ancêtre, les ancêtres noirs, les ancêtres des Africains, les Netero, les Nele, hein, le drapeau. Hein, le drapeau qui s'agite l'esprit, hein, parce que vous savez, dans les connaissances africaines, on pense que quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas, il reste, son esprit reste avec les vivants. Donc il est un délé, un mundélé. Donc être mundélé en réalité dans la pensée africaine, c'est être un ancêtre méritant, c'est-à-dire que lorsque l'on meurt, son nom va rester toujours avec les vivants. Et pourquoi? À cause de ses bonnes œuvres. Donc l'objectif de l'homme est être mundélé. Donc chez nous, on dit, ah, il faut que tu dois être un mundélé, ça veut dire que tu dois être un blanc. Non, quand on te dit tu dois être un mundélé, ça veut dire que tu dois être un ancêtre méritant. Tu dois être cet ancêtre là tu dois être comme l'ancêtre primordial qui a fait des grandes choses et qui, par ses activités, nous inspire toujours aujourd'hui. Donc c'est ça que nous voulons dire aujourd'hui. Nous avons débordé un tout petit peu. Nous voulons parler un peu de l'origine du mot mundélé et comment est-ce que dans notre conception il est mal employé, qu'il ne réfère pas aux Occidentaux, mais qu'il réfère au contraire aux ancêtres noirs de la vallée du Nil qui à une époque sont montés, ont fait ce conglomérat d'ethnies, se sont mis ensemble et sont allés dans la vallée du Nil. Et nous avons vu comment est-ce que c'est lié aussi bien au Maasai, au Mai Mai que l'on peut retrouver en Tanzanie, au Katanga, à l'est du Congo, et que tout cela en se mélangeant dans la culture du lion, de l'eau, du poisson-chat, qu'on le retrouve encore au Bas-Congo, ou encore les agnotos, les hommes léopards, tout cela. Donc c'est tout ce conglomérat-là qui a forgé l'identité de l'Égypte que l'on retrouve maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, on peut pas tout dire en 40 minutes, j'essaie de faire 30, j'ai débordé un peu de 10 minutes. Mais nous aurons à reparler de tout ça. Nous attendons vos messages à mizele48@gmail.com. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.